en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission que nous dédions aujourd'hui à un personnage très connu, connu particulièrement pour ses fonctions à la tête de la police sous Napoléon, connu pour son génie de l'intrigue, son côté caméléon, entre destitution, restitution, dangereux double jeu, Fouché. Je le nomme ainsi, joue même avec les plus grands. Il a l'aplomb du diable. Lorsque Napoléon lui demande « Vous avez été prêtre ?», il répond « Oui, sire ». Lorsque Napoléon rétorque « Et vous avez voté la mort du roi ?», Fouché déclare « C'est le premier service que j'ai rendu à vous, votre majesté ». Il conspire avec Talleyrand ou entretient des contacts secrets avec l'Angleterre. En quoi Fouché est-il une girouette ou ne l'est-il pas ? Nous parlons de l'ambivalence du personnage avec M. Jean-Denis Bredin de l'Académie française. M. Bredin, merci beaucoup de venir dans cette émission.
Merci à vous de m'avoir invité.
Nous avons dans l'inconscient collectif une sorte de mauvaise image de Fouché. Quand on pense en lui, on pense tout de suite à ses fonctions à la tête de la police. On le voit sournois, stratège, calculateur, opportuniste. Alors, l'était-il vraiment ? Faut-il peut-être remonter au début de sa vie pour mieux le comprendre ?
Mieux le comprendre ou peut-être mieux s'en méfier.
Mieux le comprendre tout court.
Je veux dire, c'est un personnage tout à fait étrange et qui a passionné des historiens comme mon confrère Jean Tullard et autrefois Stéphane Zweig et Louis Madelin. C'est un personnage tout à fait étrange et qui ne ressemble peut-être à aucun autre. Il était né près de Nantes en 1759. Il a été élevé au collège des oratoriens. Il se destinait à devenir oratorien. Il n'a été que tonsuré. Il ne sera jamais prêtre et il vivra de la haine des prêtres qui sera un des aliments, j'allais dire, de sa vie future. En 92, il sera candidat à la Convention, il entrera à la Convention, et il votera aussitôt la mort du roi. La mort du roi, alors qu'il avait déclaré quelques jours avant qu'il allait voter contre la mort du roi, mais, diront un certain nombre de ses historiens, il a toujours voté avec les vainqueurs, quoi qu'il arrive, trahissant tous ceux qu'il avait rencontrés. Mais il votait avec les vainqueurs, il vote la mort du roi quand il voit que la mort du roi est inévitable. Alors il sera nommé parmi les représentants en mission que la Révolution va envoyer dans un certain nombre de villes. Il est envoyé à Troyes, à Nevers, à Dijon, à Moulins, et puis, il est envoyé à Lyon, où il va laisser un souvenir d'histoire effrayant, puisque l'on sait qu'avec Collot d'Herbois, c'est vrai que c'est la Convention qui avait pris la résolution de détruire la ville de Lyon, il va faire abattre un nombre important de maisons, il va déclarer la guerre aux riches, il va déclarer la guerre aux prêtres, et puis surtout, comme il trouvait que la guillotine était trop lente, il va faire tuer plus près de 2000 personnes dans la plaine des Brotteaux, qui devaient payer pour tout le mal qu'avait fait la ville de Lyon à la Révolution. Il en fait tellement, il a un tel zèle meurtrier qu'il effraye un certain nombre des gens qui l'entourent et qu'il est même rappelé à la Convention. Il est rappelé à la Convention, à ce moment-là Robespierre le convoque. Leur conversation semble avoir été dramatique, mais elle n'est rapportée à peu près pas. Robespierre n'en pouvait plus de ce prêtre monstrueux. Alors par précaution, il se fait nommer, prêtre qui n'était pas prêtre d'ailleurs, oui, il se fait nommer président du Club des Jacobins. Robespierre vient le lendemain au Club des Jacobins faire exclure ce personnage abominable et il comprend qu'il faut se débarrasser de Robespierre et il participera timidement d'ailleurs, en arrière-plan, aux complots qui mettront fin à la carrière de Robespierre. Tel il est, il ne peut pas supporter de ne pas intriguer pour gagner.
Il ne peut pas supporter de perdre.
Il veut toujours être dans le camp des vainqueurs. Et il sera définitivement un monument d'intrigue, mais ça, on va y revenir.
On dit qu'il est une girouette. Est-ce qu'il est vraiment ?
Oui, il est une girouette. Par exemple, il est une girouette dès le début, quand monarchiste et presque prêtre, enfin destiné à devenir prêtre, il débarque à la Convention et remplit des rôles exactement contraires. Il est une girouette quand, paraissant fidèle à Robespierre, il fait tout pour s'en débarrasser. Il est une girouette quand plus tard il reviendra grâce à Barras, en 1795, après que les Thermidoriens l'aient tenu à l'écart un certain temps. Il va revenir grâce à ceux qui vont enfin le reporter au pouvoir, car son seul problème est à la fois de gouverner, de régner, d'intriguer. L'intrigue était sa nature profonde, diront tous ceux qui l'ont étudié. Et en 1799, il sera nommé ministre de la police générale par le directoire. Après quoi, il va aussitôt se préparer à faire réussir le coup d'État des trois consuls de Bonaparte pour que Bonaparte soit au pouvoir, parce qu'il a compris qu'il pourrait être un instrument utile entre les mains de ce Bonaparte-là. Alors il va faire en sorte, il va d'ailleurs très bien travailler, car il était fort intelligent, il travaillait très bien comme ministre de la police, de faire réussir le coup d'État de Brumaire. Il va faire en sorte de le faire réussir, non pas lui tout seul, mais un certain nombre avec lui, et lui tout spécialement. Et Stefan Zweig dit dans une jolie phrase, le serviteur avait trouvé son maître, Napoléon, et le maître avait trouvé le serviteur qu'il lui fallait, toujours à ses ordres et toujours prêt à le trahir. Tel fut le début de leur relation sous le consulat, et le voici ministre de la police. Le voici ministre de la police, et puis voici que se produit un accident que nous avons appris à l'école, ou au lycée, je ne sais plus, c'est que le malheureux Napoléon, allant à l'opéra, le malheureux Napoléon fait l'objet d'un attentat terrifiant, Runiquèze, où il a failli mourir, et alors il en voudra au ministre de la police. Et il va dire, c'est le ministre de la police qui m'a laissé tuer, et il va se débarrasser du ministre de la police en le nommant sénateur d'Aix-en-Provence, en lui donnant, car il savait que Fouché aimait beaucoup l'argent, ce qui à l'époque n'était pas, chez un certain nombre d'ailleurs, très original. Mais Fouché aimait beaucoup l'argent, il le fait nommer sénateur d'Aix-en-Provence, il lui fait donner une retraite, enfin une contribution tout à fait remarquable, mais il se débarrasse de lui au ministère de la police et de 1802 à 1804 à peu près. Voilà ce pauvre Fouché obligé de revenir à sa vie privée. Il a entre-temps épousé une femme, eu des enfants, il a une vie très régulière. Sa vie privée n'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus. C'est sa vie publique, c'est sa vie secrète, c'est les trahisons successives qui le passionnent.
Justement, ne calcule-t-il pas sa vie privée en fonction de sa vie publique et de ses intérêts ?
Certes oui, vous avez tout à fait raison, car tout à la fin de sa vie, quand il aura besoin d'essayer de plaire à la monarchie revenue au pouvoir, sous Louis XVIII, après la mort de sa femme, il épousera une aristocrate et demandera à Louis XVIII d'être témoin au mariage. Il aura à tout moment cette idée que la vie privée n'est qu'un des aspects de la vie publique. Il aura toujours une très grande relation avec l'argent, il l'aimera beaucoup, avec les hommes qui fabriquaient de l'argent, qui gagnaient de l'argent. Et en 1804, lorsque depuis 2 ans il est en exilé, j'allais dire à Aix-en-Provence, dans sa seigneurie là-bas où il vivait, dans un faste fabuleux, car cet homme, à la fois chétif, très maigre, très acier, vivait dans un luxe. Il ne supportait pas de vivre sans luxe, alors que dans sa famille, on n'avait point connu ça, ou du moins moins connu ça. Et il va faire partie de ceux qui vont demander que Napoléon devienne empereur.
Pourquoi un tel goût du pouvoir ? Comment on a un tel goût du pouvoir ?
Passion chez lui du pouvoir, c'est vrai. Et vous avez raison, comment ça lui est venu ? Est-ce que ça lui est venu de l'école ? Est-ce que ça lui est venu probablement pas de sa famille ? Il était d'une famille d'armateurs, marchands, riches, certes, mais enfin qui n'avait pas eu la passion du pouvoir. Mais dès qu'il a rencontré l'intrigue, il a voulu devenir à la fois non seulement un prince de l'intrigue, un duc de l'intrigue, je ne sais ce qu'il faut dire, mais un homme qui était toujours ou presque au pouvoir et qui souffrait terriblement quand il n'y était plus, dans les quelques moments de sa vie où il est écarté du pouvoir.
Même entouré de fortune.
Il ne se reconnaît pas. Non, il ne se reconnaît pas. Alors, en 1804, Il assiste au sacre de l'empereur, qui va le faire bientôt duc d'ailleurs, duc d'Otrante, car il faudra aussi qu'il soit duc d'Empire pour être tout à fait satisfait. Et il redevient ministre de la police sous l'empereur qui le reprend, qui se méfie de lui terriblement, car quand on lit les souvenirs de Napoléon, on voit qu'en réalité, il le tient pour un traître permanent. Mais un traître permanent dont il pense à beaucoup de moments dont on a besoin. Alors dans les moments de colère, Napoléon s'en débarrasse. Et puis dans les moments où il a besoin des autres, il se dit « il faut peut-être que je le reprenne parce que j'aime mieux qu'il trahisse les autres que de me trahir moi ».
Et tout le monde veut Fouché. Tous les hommes politiques
Vous avez raison, tout le monde ou presque veut Fouché. Alors, il va évidemment déplaire et déplaire jusqu'au dernier moment. Mais lorsque Napoléon partira, puis reviendra de l'île d'Elbe 100 jours, il reviendra pour essayer d'aider la reprise du pouvoir par Napoléon. Et du coup, Napoléon lui rendra le beau ministère qu'il devait avoir, c'est-à-dire le remettra au ministère de la police générale. Car alors, il a adoré la police générale. Pourquoi ? Parce que c'était un ministère qui est là où est l'école des Beaux-Arts maintenant, Quémaquet. Le ministère de la police générale, c'était n'importe quoi. C'était tout et n'importe quoi. Et par conséquent, il faisait au ministère de la police générale. Il intriguait, il dînait en ville, il dénonçait, il invitait chez lui. Il avait des relations avec les pays étrangers. Il a été beaucoup de relations avec Metternich. Il a eu beaucoup de relations avec Wellington. Il avait des relations avec tous les souverains étrangers. Il rêvait d'être ministre des Affaires étrangères. Mais ministre des Affaires étrangères, il le vivait comme un aspect du ministère de la police. Et il faisait de la police une espèce de vie ardente et frémissante qui lui permettait de tout contrôler, tout vérifier, tout dénoncer. Et c'était un personnage comme Jean Tullard l'a très très bien décrit, comme on en voit très peu dans l'histoire, parce que très peu de policiers ont atteint à ce niveau. Alors c'est vrai aussi que c'est une époque où il n'y a pas de contrôle rigoureux de la police, il fait tout et n'importe quoi. Et son seul problème est de se servir soi-même le mieux qu'il peut. À ce point que quand Louis XVIII va revenir, Louis XVIII va vouloir le prendre comme ministre. Alors que c'est un des régicides qui ont fait tuer son frère et que la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI, et de Marie-Antoinette, le hait, ce régicide qui est partout et partout. Mais Louis XVIII se dira, il faudra peut-être que je le reprenne. Et c'est le fameux portrait de Chateaubriand que l'on connaît, les voyant sortir tous les deux de chez Louis XVIII. Quand je dis tous les deux, c'est Talleyrand et lui. Et Chateaubriand dira, le vice appuyé sur le crime. Le vice, c'était Talleyrand, le crime, c'était Fouché, à vrai dire. On pourrait aussi inverser peut-être un peu, mais enfin, ça n'est pas notre tâche, à nous deux, de faire ça.
Nous en venons à parler de Talleyrand, Monsieur Brodin. Quelle relation entretenait Talleyrand et Monsieur Fouché ? Parce qu'était-il vraiment un ennemi ?
Talleyrand était très lucide sur lui et a dit des choses d'ailleurs très très cruelles sur lui. Talleyrand était poussé par un certain nombre, Girouette aussi, c'est un problème qui avait été évoqué. Talleyrand était comme lui poussé par l'intrigue, par l'ambition, le goût de l'argent ne lui était pas du tout étranger. Mais Talleyrand allait probablement moins loin que n'osait aller Fouché. Il y avait chez Fouché, est-ce le séjour à Lyon qui avait fait ça, il y avait une véritable part criminelle chez Fouché qui faisait que rien ne l'arrêtait et qui n'existait probablement pas. Je ne sais pas, je connais pas assez M. Talleyrand pour savoir, mais je pense que... Et puis, ils se sont souvent heurtés l'un à l'autre, leurs ambitions ne se rejoignaient pas toujours. Toujours est-il que... Ils se sont détestés et appuyés l'un sur l'autre, comme dirait Chateaubriand, à certains moments de l'histoire. Alors voilà, alors en 1815, quand va se terminer cette aventure, après qu'il ait été de nouveau ministre de la police une dernière fois, sera dressée une liste des proscrits. C'est-à-dire une liste des proscrits va venir ce qu'on a appelé la terreur blanche, c'est-à-dire la revanche des monarchistes. Et Fouché représentait évidemment l'horreur. Il a figuré sur la liste des proscrits et cette fois-ci, on a été obligé de l'envoyer à l'étranger. Et il va vivre les dernières années de sa vie. Il se remarie, il est très riche, il aime les palais, il a une très jolie propriété à Ferrières, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est superbe. Il avait sa sénatorerie d'Aix-en-Provence, qui était très belle aussi. Il aimait tous ceux qui brillaient. Et il a appris que Talleyrand avait mission de le congédier en 1815. Car on chargeait à Talleyrand de toutes les mauvaises missions, et il avait mission de le congédier. Alors, Talleyrand le lui a dit le plus gentiment possible, mais enfin...
Voilà. Gentiment, vous pensez ?
Gentiment, enfin, de leur manière à eux d'être gentils l'un avec l'autre. Et exilé, il est parti d'abord à Prague, car il s'était fait beaucoup d'amis, notamment alors Bernadotte en Suède. Il est parti d'abord à Prague parce qu'il s'était fait beaucoup d'amitié quand il était ministre de la police, qui était étrange avec Metternich. Et puis il est allé ensuite, si j'ai bonne mémoire, à Linz, en Autriche. Puis il a été vivre à Trieste avec sa femme et son fils. Et là, il s'est mis à brûler des lettres. Brûler des correspondances, mais en garder suffisamment pour qu'elles soient publiées, semble-t-il, en 1824. On ne sait pas si c'est lui qui les a publiées ou si c'est quelqu'un d'autre qui les a publiées. Ça demeure un des mystères sur lequel ces historiens... Mais c'est une manière qu'il a eue de continuer à dresser le mystère autour de lui. Publier sa correspondance, un mythe dont on ne sait pas si ses lettres sont de lui ou pas de lui. Il prend froid un jour en se promenant à Trieste et il va mourir naturellement après une messe solennelle. Je ne sais pas si Dieu va lui pardonner la manière dont il s'est traité avec lui, mais enfin, une messe solennelle, il l'a voulu et ses cendres seront rapatriées dans son château de Ferrières en 1875, si j'ai bonne mémoire. C'est une vie très étrange parce que c'est une vie qui a fasciné beaucoup d'écrivains.
Et il laisse derrière lui donc un héritage incroyable. Il fascine aujourd'hui encore les cinéastes, les écrivains, nombreuses personnalités réfléchissent beaucoup sur la personnalité très forte de Fouché. Et on dit qu'aujourd'hui la police d'aujourd'hui est fondée quelque part par Fouché. C'est-à-dire pas dans le mauvais aspect, mais que Fouché a vraiment initié un nouveau courant, c'est-à-dire une nouvelle époque.
Non, ce fut le premier ministre de la police au sens général de ce qu'on appelait ministre de la police générale même. On y était ministre de la police générale. Et par conséquent, c'est lui qui, c'est vrai, a improvisé à l'époque un certain nombre d'usages. Et là, Tullard a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce sujet, très bien travaillé. Alors, reste que c'était une police qui n'était absolument pas surveillée par aucune autorité. Il était le souverain de sa police, telle qu'il l'imaginait. Elle n'est plus telle aujourd'hui, c'est donc un autre monde. Mais qu'un certain nombre d'habitudes nées de cette époque-là aient existé, ça c'est possible. Mais il a adoré le ministère de la police, sauf qu'il eût aimé intégrer le ministère des Affaires étrangères à l'intérieur du ministère de la police. Il pense que ça aurait été plus simple, oui.
Il visait au départ les relations extérieures.
Oui, c'est ça.
Et au départ, était-il déçu du ministère de la police ? Même si par la suite, bon, il ne l'a plus été, mais...
Il ne l'a pas trop été, mais au départ, sûrement, sur le plan des hiérarchies, sur le plan des mérites, sur le plan, il eût préféré probablement être ministre des Relations extérieures. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que Napoléon dira souvent de lui le pire mal. Disant que c'était un traître né, qu'on ne pouvait que se méfier de lui, qu'il mentait chaque fois qu'il prenait la parole, etc. Mais en même temps, dans tous les moments difficiles de son histoire, Napoléon éprouve le besoin de le faire revenir. Comme s'il se disait, pardon de rabâcher, mais comme s'il se disait, c'est dangereux de l'avoir à l'extérieur. Et il intriguait tout le temps. Alors Napoléon, dans ses mémoires rédigées à Sainte-Hélène, dit... L'intrigue lui était aussi nécessaire que la nourriture. Et Napoléon ajoute, il intriguait en tout temps, en tout lieu, de toutes les manières et avec tout le monde. Cela dit, il a fasciné, d'abord c'est étrange que Zweig ait eu besoin non seulement d'écrire un livre sur lui, mais de dire « c'est le plus remarquable de tous les hommes politiques », dit tout en le jugeant très sévèrement, mais c'est le plus remarquable de tous les hommes politiques. Et Balzac parle d'un génie, esprit sombre, profond, extraordinaire, véritable génie qui avait frappé Napoléon d'une sorte de terreur.
Que cherche-t-il au fond ? Une reconnaissance ? Une notoriété ? Bon, ce n'est pas l'argent.
L'argent, il l'aimait beaucoup. La notoriété, il l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup agir, faire, avoir un rôle, tenir les cartes, être maître d'une société. Personnage tout à fait étrange quand on considère ce qu'avaient été les débuts. Il était professeur de physique, de chimie, dans les différentes écoles des oratoriens où il avait enseigné. Oui. Mais un certain nombre, qu'il avait connu très jeune, comme Robespierre, qu'il avait connu à Arras au début de sa carrière. Monsieur de Robespierre était à l'époque à Arras. Et Robespierre voyait en lui un des personnages à la fois les plus intelligents et les plus dangereux que le monde ait inventé.
Lorsqu'on lit les bulletins qui paraissent à l'époque, les bulletins journaliers qui font état de l'avancement de l'activité, donc tous les jours en France, partout en France, eh bien on dénombre beaucoup, beaucoup de voleurs, beaucoup de personnes attrapées par la police. Et même, il va jusqu'à énumérer le nombre de mendiants qu'il attrape. Est-ce que la police est si cruelle que ça à l'époque ?
Je crois que oui, mais enfin c'est lui qui l'a fait, la police. Il l'a fait, il l'invente, il l'a fait, il la fabrique, il fait surveiller des quantités de gens, il fait faire des rapports sur tous les gens importants sans aucune espèce d'autorisation d'aucune sorte. Il entretient des rapports avec les souverains étrangers sans même consulter le gouvernement. Il fait ce qu'il veut à la police et chez lui, un règne absolu.
Quant aux fonds secrets, il les utilise ?
Oui. Il les utilise et même Napoléon, pour le récompenser, quand il l'a fait duc d'Otrante, lui en a donné une certaine partie même. Pour dire, je me débarrasse de lui, mais il faut quand même que je le récompense. Je sais qu'il aime l'argent et je lui donne une partie des fonds secrets.
Est-ce qu'il était sensible au fond ? Est-ce qu'il lui arrivait, ne serait-ce que, de s'émouvoir de quelque chose ?
Ça, c'est une très bonne question que vous posez là. Personne ne peut le dire. Il semble qu'il ait eu du chagrin quand est mort de sa fille, qu'il avait appelée Nièvre. Elle était née à Nevers. Il l'avait appelée Nièvre. Il a eu, semble-t-il, une sorte de chagrin. Mais a-t-il été un homme sensible ou était-il un homme totalement fermé ? C'est pourquoi il fascine beaucoup d'écrivains, parce qu'il apparaît totalement inexplicable.
Quel est le moment le plus fort de sa vie, selon vous ?
Le plus fort, vous voulez dire le moment qui fut pour lui le plus heureux ?
Le plus heureux ? Déjà était-il heureux ? Est-ce que
non, le bonheur n'était pas quelque chose qui devait le concerner ni l'intéresser. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout quels sont... Parce que finalement, on ne sait pas si ses mémoires sont de lui. Dans ses lettres, il ne parle pas des sentiments qu'il éprouve. Il écrit joliment, il écrit bien, mais à l'époque, beaucoup de gens écrivaient bien. Il est, à mon avis, totalement inexplicable et c'est ce qui fait l'intérêt qu'il a. Et évidemment, si on se tourne vers la partie du temps qu'il a passé à Lyon avec Collot d'Herbois, parce que quand Collot d'Herbois ensuite est envoyé aux colonies où il va mourir, il est très content que Collot d'Herbois soit seul puni, alors qu'ils étaient ensemble et travaillaient ensemble, mais il trouve tout à fait normal qu'on punisse Collot d'Herbois et lui, il se présente à Robespierre, qui d'ailleurs ne se fait pas la moindre illusion, mais il se présente à Robespierre comme celui qui a cherché à empêcher les pires drames quand il était à Lyon, naturellement, car il est toujours à charger les autres des responsabilités reprochables.
Comment on gagne ces qualités qui permettent de jouer autant avec l'homme, avec le pouvoir, d'être aussi intelligent, aussi calculateur au fond ?
Il était certes certainement très intelligent, le peu qu'il ait écrit, ses quelques correspondances le disent. Il était très calculateur. Avait-il, au sens un esprit, avait-il une âme autre que, je veux dire, est-ce qu'il était capable de se reprocher quelque chose ? A-t-il aimé quelqu'un d'autre que Fouché ? Question que vous posiez tout à l'heure. Moi, je crois qu'il reste complètement mystérieux, personnage étrange. Girouette, oui, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup d'autres girouettes que lui. Mais une girouette de ce genre-là, il y en a guère, c'est un personnage totalement mystérieux de l'histoire de France. abominable, à beaucoup d'égards, il faut bien le dire, mais qui reste très intéressant.
Comment vivait-il ces échecs, selon vous ?
Ah, il vivait très mal les périodes où il est trois fois séparé du pouvoir. Il l'est d'abord de 1795 à 1798, puis il l'est ensuite pendant son exil, qu'on a appelé son exil doré, parce qu'il avait été fait de 1802 à 1804, puis une troisième fois de 1810 à 1813. Il supporte très mal d'être exclu du pouvoir et il supporte très mal son exil en 1815. Il supporte mal d'être exilé. Il a toujours intrigué pour être au pouvoir. Et le fait de ne plus être au pouvoir, il le prend sûrement très mal. Est-ce que ça l'aide à mourir ? Je ne sais pas. Comme qu'a-t-il pensé les derniers jours ? Alors, ses mémoires, les mémoires de Fouché, je ne sais pas s'ils vous sont passés entre les mains. On ne sait pas s'ils sont de lui. On ne sait pas si c'est d'autres que de lui. Les thèses diverses. Louis Madelin disait que c'était probablement de lui. Mais c'est des mémoires dans lesquelles il accuse le monde entier, sauf lui.
Merci beaucoup, Monsieur Bredin, d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci à vous.
Et d'avoir parlé de Fouché. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en la téléchargeant sur canalacademy.com.